Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik und Kultur-Sendung. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Viel Spaß auf Radio Kanal K. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission préférée Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, Barack Obama vient d'être réélu à la tête des États-Unis. Une victoire surprenante selon plusieurs observateurs politiques internationaux. Que peut espérer l'Afrique pour ce deuxième mandat de Obama? Nous allons commenter et analyser avec le journaliste Alain Jules et qui sera en ligne en direct avec nous depuis Paris. Eh bien, depuis plus de 50 ans après leur indépendance, beaucoup de pays africains ont de la peine à relever leur économie. Alors, quelle en sont les raisons? Nous en parlons également avec l'économiste Dr. Yves Ekwe-Amaizo. Dr. Yves Ekwe-Amaizo sera également en ligne en direct depuis Vienne, en Autriche, avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité. Eh bien, l'équipe est au complet. Et Lucien Moukanli, Romain Koudjodi, Fabi Kwasi, Augustin Amega, Josué Maouli, Esteban Gagnon, et bien sûr, sur la supervision générale de Michel Pouléo. Je m'appelle Sylvain Amos pour vous servir pendant 60 et bonnes minutes. Merci également à notre radio partenaire Légende FM à Lomé et Lavra, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Eh bien, je le disais en tout début de cette émission, Barack Obama a été réélu pour son nouveau mandat, le deuxième mandat. Barack, tu y as de la baraka. Réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, le président américain Barack Hussein Obama laisse perplexe ses milliers d'admirateurs dans le monde entier. En vérité, le continent noir s'est laissé berner par le célèbre discours de Barack en début de son premier mandat en 2008 et aussi par son célèbre discours du Caire en Égypte, où le pied noir disait ceci, je cite, « Nous devons consentir un effort soutenu afin de nous mettre à l'écoute et d'apprendre les uns des autres, de nous respecter mutuellement et de rechercher un terrain d'entente. Comme le dit le Saint-Coran, crains Dieu et dis toujours la vérité. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, de dire la vérité de mon mieux. » Il continue en disant, je cite toujours, « Je me couvre du manteau de démocratie et de paix dans le monde. » Fin de citation. Malheureusement, force est de constater que le pied noir a déçu les Africains qui, d'ailleurs, ne se faisaient pas d'illusions sur sa volonté à changer le continent noir, mais tout au moins les régimes qui croupissent dans le gîte dictatorial où le respect des droits de l'homme est bafoué, comme par exemple au Togo, au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, ont été déçus que Obama, le démocrate, n'ait pas pu faire pression sur ses monarques pour le respect de leur peuple. Mais loin s'en faut, la chance vient de jouer encore une fois à ses côtés. Oui, la chance, car pour battre un républicain riche, fortuné comme Mitt Romney, il faut avoir de la baraka. Non seulement que Romney a été battu, mais dans son propre fief dans le Nevada, où l'on compte plus de mormons de son église, il a reçu également de fin de non-recevoir. Pour nous panafricanistes, il est un plaisir de voir un pied noir démocrate abriguer un deuxième mandat présidentiel après Bill Clinton depuis la fin de la guerre mondiale aux États-Unis, mais nous pensons que le président Barack Obama doit faire mieux et saisir sa baraka pour faire plier les régimes asservissants en Afrique au nom de la démocratie. Barack, bonne chance. Eh bien, effectivement, le mardi 6 novembre de l'an 2000, Barack Hussein Obama est réélu en sa qualité de 44e président des États-Unis. Eh bien, ce deuxième mandat d'Obama peut être considéré comme une victoire historique, car en réalité, outre le taux de chômage qui frôle 8%, un seul démocrate, Bill Clinton, avait réussi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à se faire réélire pour deux mandats accomplis. Eh bien, par cette victoire, Barack Obama demeure pour l'instant le premier Afro-Américain ayant accédé à la présidence des États-Unis d'Amérique en 2008. Et bien sûr, je le disais, pour commenter et analyser la victoire de Barack Obama et son influence sur la politique des États-Unis et l'Afrique, nous accueillons dans un instant Alain Jules, journaliste blogueur et qui est déjà en ligne, en direct, bien sûr, depuis la France. Nous allons le recevoir dans un clin d'œil.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Alain Jules, bonsoir.
Bonsoir Amos.
Merci encore une fois d'être au rendez-vous avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, et bien pour éclairer et nos amis africains, les amis du continent noir. Alors Alain Jules, quel commentaire faites-vous de la victoire surprenante de Barack Obama et qui vient de briguer un deuxième mandat aux États-Unis?
Écoutez, certains parlent d'une victoire surprenante, elle ne l'est pas vraiment au vu des résultats, dans la mesure où les républicains se sont ils ont eu le soutien général des médias. Et par conséquent, ce sont les médias qui commandaient les sondages, hormis probablement des sondeurs comme Gallup ou Rasmussen aux États-Unis. Donc, en réalité, à partir du moment où ces médias-là n'interrogeaient essentiellement et uniquement que des familles blanches, surtout qu'il y avait une rumeur, qui n'est restée qu'une rumeur, au niveau du vote des Noirs et des Hispaniques. Et par conséquent, donc, pour quelqu'un d'averti, il savait très bien que Barack Obama allait l'emporter. Et donc, quand on entend les salmigondis du richissime, comment il s'appelle, le républicain, je crois, c'est, j'oublie un peu son nom, qui a déclaré que les États-Unis ne sont pas une démocratie. Pourquoi? Mais simplement parce que dans sa tête aussi, il croyait vraiment que les sondages étaient bons. Or, ils étaient mauvais. Et donc, c'est la triste réalité, justement, de cette élection-là, pour les détracteurs de Barack Obama. Voilà, en gros, il n'y a pas vraiment de surprise.
D'accord, il n'y a pas quand même de surprise pour la réélection de Barack Obama. C'est également votre avis. Alors, Alain Jules, que peut attendre les Africains du deuxième mandat du président des États-Unis, qui est en même temps un fils de l'Afrique? Le président guinéen Alpha Condé et pense que Barack Obama aura, après son premier mandat, une politique africaine plus dynamique, Alain Jules?
On l'espère surtout. On l'espère surtout, mais on ne peut présager de rien parce que il faut déjà partir du fait que Barack Obama, avant d'avoir un géniteur africain, est d'abord américain. Je crois que c'est un petit détail que beaucoup d'Africains ignorent. D'ailleurs, aujourd'hui, Obama ne fait pas rêver les Africains. Les choses sont très claires, il n'a rien fait pour l'Afrique, il n'a même rien fait pour l'homme noir aux États-Unis. On peut vous dire ça, vous pouvez consulter tous les noirs aux États-Unis, ils vous diront.
Mais Alain Jules, pourtant, il y a beaucoup de noirs qui ont voté Barack Obama.
Justement, et beaucoup d'observateurs, moins avertis justement, disent que c'est une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Obama, si vous voulez, a fait un travail pour les Noirs américains dans le sens de son Obamacare. Donc, à partir du moment où, au niveau de la société américaine, ce sont ces gens-là qui sont les laissés pour compte, et à partir du moment où maintenant ils pourront avoir une espèce d'assurance maladie, vous savez très bien que ça joue un grand rôle. D'ailleurs, pendant la campagne, si vous vous souvenez, il y a Mitt Romney qui a parlé des 47% d'assistés. Donc à partir de là, vous voyez qu'il y avait 47% de personnes aux États-Unis qui allaient forcément voter pour Barack Obama, dans la mesure où ces gens-là craignaient que demain, si Mitt Romney devient président des États-Unis, il allait supprimer l'Obamacare. Donc voilà un autre détail. Ça veut dire que dès le départ, il y avait 47% d'Américains qui allaient voter pour Obama. Alors, le travail à faire, il restait justement les 4% ou les 5, les 3,5% qui pouvaient faire qu'ils gagnent. Donc c'était ça en fait le travail des démocrates. Et donc beaucoup de gens se sont plantés, ne sachant pas réellement ce qui se passait aux États-Unis. Et encore une fois, Obama est américain. Il allait vers les hispaniques, il allait vers les noirs avec sa réforme. Et puis le tour était joué. Donc Mitt Romney ne l'a pas compris. Les républicains, le GOP n'est pas allé vers les hispaniques, etc. Et c'est pour cela qu'ils ont perdu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les gens, ça ne sert à rien de philosopher dessus. Hein. C'était écrit et c'était comme ça. Les démocrates ont bien joué. Et Obama savait très bien qu'il allait gagner. Il n'était même pas inquiet. Donc voilà, si maintenant, au niveau de la politique africaine,
bien sûr,
on espère quelque chose d'Obama, j'avoue que, je redis encore une fois, il est d'abord américain, et par conséquent, ce ne sera pas du tout évident. Mais on espère qu'il aura une politique africaine, c'est-à-dire qu'il ne restera pas au niveau du discours, mais qu'il sera vraiment une politique franche pour le développement de l'Afrique, notamment, parce que figurez-vous que Bush a plus travaillé pour les Africains, notamment avec un programme, deux programmes de santé sur le sida. Mais Obama ne l'a pas fait. Donc, en 4 ans, peut-être qu'il avait tous les dossiers sur la table, il les a traités, et que maintenant, il mettra sur la table ses propres dossiers. On les sert bien, comme
bien
Alpha Condé.
Bien voilà. Sûr, on l'espère bien, comme l'a dit le président guinéen Alpha Condé. Et Alain Juh, il est quand même incontestable que certains Africains n'espéraient pas un miracle d'Obama, comme vous venez de le dire, hein. Obama qui n'a pas du tout pesé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme sur le continent noir. Et cet avis, selon nos sources, est largement partagé par des observateurs avertis africains. Hein. Est-ce que vous partagez également cette opinion, Alain Jules?
Je partage leur avis. Parce que bon, quand on voit le dossier ivoirien, quand on voit le dossier libyen, on comprend tout de suite que il a traité les problèmes en surface et, si vous voulez, il s'est simplement aligné sur la politique européenne là-dessus. Et donc, les États-Unis n'étaient pas vraiment, au départ, on va dire, très actifs, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye. Mais néanmoins, ils ont donné leur arsenal militaire, notamment des drones pour la Libye. Et puis un certain crédit dont je n'ai pas les chiffres au niveau de la Côte d'Ivoire, pour que puisque l'ONU, c'est quand même, on va dire, l'ONU, c'est quand même les États-Unis. À partir du moment où l'ONU a pris fait et cause pour Alassane Ouattara, donc on peut dire que les États-Unis effectivement ont pesé là-dessus, et par conséquent, il n'a vraiment joué aucun rôle au niveau de la démocratie en Afrique. Au contraire, même entre Obama, Cameron et lui, ils sont aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, les assassins de Muammar Kadhafi. Parce qu'il faut quand même rappeler que le convoi de Kadhafi a été stoppé par un drone américain. On ne le dira jamais assez. Donc voilà, on espère justement qu'il va rectifier le tir pour les 4 prochaines années.
Voilà. Justement, alors revenons encore une fois sur la réélection de Obama aux États-Unis, qui probablement aura des difficultés, car ce continent fait face à un mur budgétaire qui risque de replonger l'Amérique dans une récession. Hein, Alain Jules, est-ce que vous pensez que Obama fera mieux lors de ce deuxième mandat quand même aux États-Unis?
On l'espère bien, parce que quand vous voyez, je crois que c'est 16 000 milliards de dollars de dette. Donc la préoccupation première des Américains, c'est déjà leur économie. Hein. donc avec un déficit aussi abyssal, dire qu'aujourd'hui qu'ils vont vraiment s'occuper des Africains, de l'Afrique, c'est vraiment mal connaître les États-Unis. D'ailleurs, quand vous voyez au niveau du vote américain, quelles sont les préoccupations? Même la politique étrangère, c'est 3% de la population qui s'occupe de la politique étrangère. Et quand vous êtes aux États-Unis, ils ne peuvent même pas, c'est-à-dire 90% d'Américains ne peuvent pas vous placer à Abidjan, par exemple, où se situe Abidjan. Donc ils ne savent pas. Et donc, personnellement, je crois que Obama, il aura une charge terrible, ça c'est sûr. Mais l'Afrique, je ne crois pas vraiment qu'il va s'occuper de l'Afrique. Je ne crois vraiment pas sur ces 4 prochaines années. À moins que, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Les États-Unis sont vraiment dans un déficit abyssal et il va plus s'occuper de ses compatriotes, pas des Africains.
Justement, le mot est pesé et Obama ne va pas s'occuper des Africains, mais il va s'occuper des États-Unis d'Amérique. Ça fait quand même un peu mal aux Africains par rapport au discours tenu par Obama et en Égypte. Alors, Alain Jules, même si la Floride aux États-Unis restait toujours indécise, mercredi dernier matin, Obama a remporté au moins 303 grands électeurs contre 206 à son adversaire républicain Mitt Romney, et qu'il a quand même réussi à même à battre dans le Nevada, où l'on compte plus de mormons, hein, et ce sont les fidèles de son église censés être favorables aux républicains. Alors quand même, le compte est bon, hein, et pour Obama, donc voire même très bon, et pour le 44e président américain. Comment expliquez-vous quand même le phénomène Obama, Alain Jules?
Ben écoutez, il y a un problème déjà. Il n'y a pas eu de mutation au niveau du GOP, Grand All Party, c'est-à-dire les républicains. Pourquoi? Ils sont restés dans une structure essentiellement blanche. Or, aujourd'hui aux États-Unis, quand vous regardez la configuration ethnique, si passez-moi l'expression, il y a de nombreux hispaniques qui seront majoritaires dans les 10-20 ans à venir. Or, les démocrates sont allés vers eux. Les démocrates, forcément, presque tous les noirs, ont voté démocrate. Donc, Obama, un phénomène, non, plutôt un bon stratège qui arrive justement à faire en sorte que la majorité, parce que même au niveau du vote national, il a remporté plus de voix que Mitt Romney. Donc, en fait, il y a eu une mutation au niveau du Parti démocrate qui est multiraciale, comme la société américaine qui est un melting pot. En revanche, le GOP, le Grand Old Party, c'est-à-dire les républicains, sont restés très blancs dans leur façon de penser, dans leur vote. Et voilà. Et donc aujourd'hui, pour qu'ils puissent se refaire, d'ailleurs, on voit des attaques entre eux-mêmes. C'est terrible en ce moment avec cette défaite-là. Donc Obama, un phénomène peut-être au départ, mais au jour d'aujourd'hui, on comprend aisément ce qui s'est passé. On comprend aisément où il a voulu aller. On comprend aisément la stratégie des démocrates qui s'ouvre aux autres, contrairement au GOP qui ne s'ouvre absolument pas, qui reste essentiellement et uniquement dans un vote essentiellement blanc. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé à l'université du Mississippi, où, dès qu'on annonçait qu'Obama avait gagné, il y a eu des manifestations, des étudiants blancs qui sont sortis dans le campus, qui ont brûlé son portrait, etc., etc. Donc il y a tout ça, quoi.
Il y a quand même tout ça, mais l'Amérique quand même reste quand même unie, et il y a quand même Mitt Romney qui l'a dit, qui l'a confirmé, et qu'ils doivent quand même enterrer ce qu'on appelle quand même les divisions politiques. Il a dit que l'Amérique ou les États-Unis doivent rester quand même unis.
Oui, ça c'est, vous savez, bon, ça c'est un discours d'un homme politique responsable. Donc on le comprend très bien. Figurez-vous qu'à partir du moment où ils ont les résultats, ils savent que sur le plan national, Obama l'a battu, alors que les sondages ne disaient pas la même chose. Au niveau des grands électeurs, par rapport au fait que la démocratie américaine est indirecte, Donc Obama a tous les suffrages, 303 grands électeurs, 206 pour Mitt Romney, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et par conséquent, si derrière vous faites un discours de division, vous faites un discours alors que le président a tendu la main aux républicains, qui sont même d'accord, apparemment au niveau du Congrès, donc à partir de là, si vous faites un discours irresponsable, comme Donald Trump, je parlais du milliardaire au début de notre entretien, c'était de Donald Trump qui disait que c'était une démocratie, parce qu'il était convaincu que les sondages étaient bons, étaient favorables à Mitt Romney. Donc on comprend tout de suite que Mitt Romney est un responsable, il a compris, et surtout qu'aux États-Unis, on n'aime pas ce qu'on appelle les losers. Quand vous avez perdu, vous êtes un loser, et oser venir avoir un discours, on va dire, extrémiste, ben, tout le monde tombe sur vous, hein, même vos propres partisans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a fait ce discours-là.
Justement. Voilà. Alain Jules, merci quand même d'avoir commenté, analysé la réélection de Obama, Obama aux États-Unis, quand même, où beaucoup d'Africains, ouais, selon beaucoup d'Africains, qui pensent espérer que, ouais, la politique États-Unis-Afrique sera encore, va s'améliorer, espérons encore une fois, comme vous venez de le dire. Alors, l'actualité, c'est également l'intervention militaire au Mali, ce pays et qui connaît depuis des mois une crise sans précédent. Alors, on parle d'une intervention militaire qui tient toujours à venir. Alors, actuellement, le ministre de l'Intérieur algérien fait un pas en arrière sur une intervention militaire au Mali. Et quelle est votre réaction en tant que panafricaniste, Alain Jules?
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que moi, quelle que soit l'intervention, je suis contre, parce que je suis anti-guerre. En revanche, il faut quand même toujours rappeler aux uns et aux autres que ce qui s'est réellement passé au Mali, mais il s'agit de la guerre faite à Kadhafi en Libye. Donc, avec ce largage des armes inconsidérées par l'Occident, notamment la France. Donc, voilà. À partir du moment où les Touaregs ont eu des revendications depuis des centaines d'années, des dizaines d'années, on peut comprendre leur réaction. Ils veulent plus ou moins récupérer une partie ancestrale. Mais ce que les gens ne disent pas, et où on n'arrive pas réellement à bien comprendre ce combat qui se focalise dans le Nord Mali, c'est que l'Azawad, le fameux Azawad qu'on revendique, a des ramifications au Niger, a des ramifications au Burkina Faso. Donc quand on fait l'ensemble de l'Azawad, l'Azawad donc englobe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi aller donc se focaliser au Nord Mali? Quand on regarde la structure, on comprend tout de suite ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la zone, par exemple, de Mopti, on a découvert des gisements pétrolifères. Dans ces zones-là, je crois qu'il y a trois grands gisements pétrolifères qui ne sont pas encore exploités, mais qui seront exploités. Il y a de l'or, justement, dans le centre du Nord Mali. Et par conséquent, on se dit, mais tiens, les Occidentaux ne vont jamais quelque part au hasard, ils vont toujours avec des intérêts. Mais cette fois-ci, ils envoient les Africains mourir, les Africains lutter entre eux, quoi, contre eux-mêmes. Donc voilà, moi je crois qu'il faut négocier. Il faut négocier. D'ailleurs, le groupe en sardine l'a plus ou moins compris, parce qu'ils disent que, bon, voilà, nous, on veut négocier. Pourquoi ne pas négocier? Pourquoi aller faire la guerre alors qu'on peut arriver en consensus? Donc, je n'arrive pas à comprendre. Et vraiment, je suis contre ça. D'ailleurs, certaines sources disent que même les États-Unis, notamment avec une influence qatari, ne veulent pas qu'il y ait cette guerre-là. Bon, on peut comprendre les Qataris, hein, parce que partout où il y a une guerre, soi-disant pour la démocratie, et ils vont pour le pétrole. Donc, franchement, les Européens, sur ce plan-là, sont en train de jouer un jeu qui est assez mesquin, c'est-à-dire qu'ils envoient les Africains mourir, mais derrière, mais qui viendront exploiter... quand il y aura des troubles, c'est eux qui viendront exploiter ce pétrole-là, les gisements d'or, etc. Donc voilà quoi, moi c'est ma position.
Oui.
ça ne veut pas dire que je suis pro-islamiste.
Justement. Je vous comprends, mais quand même, il y a cette population qui souffre et subit, et cette population subit tout le temps des représailles. Des femmes sont violées. En gros, c'est n'importe quoi quand même au nord du Mali. Et le président français, quant à lui, il dit que la France est prête quand même pour soutenir dans le domaine logistique, mais la France ne va pas quand même intervenir. Quel est votre commentaire?
Oui, justement, c'est l'hypocrisie du système. C'est-à-dire que pourquoi ils sont allés intervenir en Libye? Pourquoi ils sont là intervenir intervenir en Syrie? Donc il faut comprendre, il y a une dichotomie, peut-être parce que la tête du pays a changé, peut-être que c'est la dialectique Hollande, mais il y a une hypocrisie qui est réelle. Moi je veux bien, si maintenant ils disent qu'ils sont contre les islamistes, d'ailleurs le président français le disait, qu'il ne faut pas négocier avec eux. Pourquoi eux qui ont la technologie, eux qui ont les armes, et même des hommes, ne s'associent pas véritablement avec l'IA pour aller combattre? Donc on se pose des questions. Il y a un problème qui n'est pas très net dans leur position actuelle, notamment sur le Nord Mali. Et donc il faut surtout dire que les mêmes veulent une intervention en Syrie. Donc on ne sait pas trop, ce sont des gens qui vont pour leurs intérêts, et quand il n'y a pas vraiment trop d'intérêt, parce que pour l'instant il n'y a pas réellement d'intérêt, parce que j'imagine que si Total ou Exxon étaient en train d'exploiter le pétrole dans le Nord Mali aujourd'hui, pour protéger, n'est-ce pas, ces gisements-là, ils allaient aller sur le terrain.
Justement.
Donc on comprend très bien que pour l'instant ils ne veulent pas, parce qu'il n'y a encore rien qui est exploité.
En tout cas, Alain Jules, merci d'avoir commenté et analysé l'actualité politique africaine et également la réélection du président Obama. Merci et bonne soirée à vous, Alain Jules.
Bonne soirée à moi, c'est bien de choses à la Suisse et à l'Afrique.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo. diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Et merci de nous suivre en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous sommes la voix des opprimés. Eh bien, avant de prendre notre deuxième invité, qui n'est autre que l'économiste docteur Yves Ekweamaizo, qui patiente quand même. Docteur Yves Ekweamaizo, merci quand même de patienter depuis Vienne en Autriche. Nous allons d'abord faire un tour à Lomé au Togo et tout de suite avec notre correspondant Augustin Amega pour un briefing sur l'actualité politique au Togo. Augustin Amega, bonsoir.
Bonsoir, Amos.
Merci de nous accompagner depuis Lomé. Alors, selon nos indiscrétions, Augustin, il y a du rififi au sein de l'opposition, et notamment entre l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, et la coalition Sauvons le Togo. Alors, Augustin, est-ce que vous pouvez nous confirmer cela, et quelles sont les raisons de ce rififi au sein de l'opposition togolaise?
Disons que tout est parti d'une interview accordée par le premier vice-président de l'ANC, Patrick Lanson, à une radio de la place, à radio partenaire à Canal K, à cette émission Fenêtre sur l'Afrique, la radio légende, où Patrick Lanson fustigeait des dysfonctionnements au sein de le CST et la coalition arc-en-ciel. Et selon nos informations, il s'est agi d'une lettre qui aurait été adressé au chef de l'État lui demandant d'ouvrir un dialogue, lettre signée par Maître Apévon, président de la coalition arc-en-ciel et le coordinateur du CST, sans en avoir avisé un certain nombre d'acteurs au sein du collectif Sauvons le Togo, dont l'ANC. Donc, Patrick Lanson a fustigé cela, mais après on a écouté Monsieur Agbeome, qui est également membre du CSC, président de OBU, qui a essayé de mesurer la chose en parlant d'un problème de communication qui a fait que, bon, mais il a estimé que à partir du moment où le principe du dialogue a été admis par l'ensemble des membres du CST, donc les premiers responsables des regroupements étaient fondés à adresser donc cette lettre au chef de l'État sans forcément s'en référer aux autres membres. Ce qui n'est pas de l'avis de l'ANC qui réitère donc les préalables à la tenue de ce dialogue. On a noté également dans les explications de M. Agbeyome que sur la question de l'exigence du retour des 9 députés inscrits à l'Assemblée nationale, il y a eu comme une évolution dans la position du président Diomu qui estime que la question doit être discutée et réglée au sein du dialogue, alors que l'ANC estime que c'est un préalable même à l'ouverture du dialogue. Donc, on en est là actuellement, mais selon les membres des deux regroupements, il y a eu une réunion au cours de laquelle ils ont discuté de la question et que la question est désormais réglée. On attend de voir donc la suite.
Attendons de voir encore la suite et par rapport à ce rififi au sein de l'opposition qui, en ce moment précis, ne peut pas avantager la lutte démocratique au Togo. Et bien sûr, et on parle également de l'illégalité de l'unir une union pour la République, parti du président Faure Gnassingbé. Alors, Augustin, en quoi ce parti est illégal puisque ce parti est déjà en pleine activité au Togo?
Disons que le parti n'est pas autant en pleine activité au Togo comme on pourrait le croire. D'ailleurs, le congrès statutaire qui a été annoncé a été plusieurs fois reporté et à ce jour n'est toujours pas tenu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il existait depuis 1997 une formation politique dénommée Union pour la République et qui a adopté pour sigle UPR. Ce parti est créé par un universitaire togolais du nom de Jean Sapa qui est décédé. Mais à ce jour, ce parti n'a jamais été régulièrement dissous. Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles Union pour la République également, portant la même dénomination que le parti de M. Sapa a été créé. C'était dans la soirée d'un congrès tenu à Blitak qui a conclu sur la fusion, dissolution, création du parti RPT. Et dans la soirée, à Tapamé, Faure Gnassingbé a créé un nouveau parti dénommé UNIR avec un bureau squelettique. Et à ce jour, il était prévu qu'un congrès soit tenu pour étoffer donc ce bureau et lancer les activités du parti. Mais on remarque actuellement que la question donc de l'existence préalable d'un parti fait partie donc des obstacles au lancement de UNIR. D'autant que la charte des partis politiques au Togo interdit à tout parti nouvellement créé la possibilité d'utiliser la même dénomination qu'un parti préalablement existant. Ce qui montre très bien que l'UNIR a été créé dans l'improvisation sans tenir compte de la charte des partis politiques. Et en cela, le parti est totalement illégal. Et ce que nous apprenons, c'est que le ministre de l'administration, le ministre Sylvain Bahara, approche les membres de l'UPR, l'Union pour la République initiale, pour les convaincre de dissoudre leur parti, pour permettre donc à UNIR, créé par Faure Gnassingbé, de se régulariser.
Augustin Améga, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, depuis plus de 50 ans après leur indépendance, beaucoup de pays africains peinent à relever leur économie et à opter pour une politique de développement durable. Dr Yves Ikwea Amaizo, économiste, vient de publier un réquisitoire accusant donc le Fonds monétaire international pour son rôle lugubre dans la gestion économique africaine. Nous l'accueillons tout de suite en direct depuis Vienne. Docteur Yves Ikwea Amaizo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Amos.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique depuis Vienne, en Autriche. Vous êtes économiste et directeur du groupe d'influence Afrocentricité. Vous venez de lancer un réquisitoire sans appel sur le Fonds monétaire international, le FMI, et bien dans un article intitulé « Le FMI, pyromane et pompier au Togo en Côte d'Ivoire ». Alors, Dr Yves Kouyamaïso, et pourquoi ce violent réquisitoire contre le FMI? Y a-t-il vraiment panique à bord, Yves Kouyamaïso?
Alors, merci pour l'invitation, mais vous parlez de réquisitoire. Vous savez, je n'ai rien fait d'autre que de dire la vérité à partir des dernières statistiques officielles du 31 octobre 2012 du Fonds monétaire international. Vous parlez de violents réquisitoires. En quoi une analyse de la situation structurelle d'endettement d'un pays comme le Togo ou la Côte d'Ivoire peut être violente? Rappelez-vous les décisions du Fonds monétaire international. Ces décisions dans le temps sont radicales. Ils ont fait retourner les classes moyennes, africaines ou d'ailleurs, dans la pauvreté. Les pauvres même retournent à la subsistance. Et certains pays, les gens sont dans la rue, regardez la Grèce. Donc il ne faut pas avoir une mémoire courte. Avez-vous oublié les émeutes de la faim dans plusieurs pays africains, alors que le FMI, Fonds monétaire international, exigeait le paiement sans délai d'arriérés cumulés de déficits budgétaires d'États africains, plus les intérêts, surtout qu'on payait d'abord les intérêts? Ne voyez-vous pas ce qui se passe en Grèce avec l'Union européenne qui est étranglée? Cette Grèce est étranglée par sa dette. Pourquoi tout ça? Est prise en tenaille par les créanciers privés, notamment les banques occidentales, mais aussi les créanciers publics, comme l'Union européenne et le FMI. Donc le problème est que je ne voudrais pas que le Togo ressemble à la Grèce. Est-ce faire preuve d'une violence ou d'un réquisitoire quand on veut démontrer qu'en fait il n'y a plus de corrélation, au Togo en tout cas, en Côte d'Ivoire certainement pas, entre une croissance économique positive, qui est le cas, et un déficit croissant du solde budgétaire externe d'un pays? Et tout ça, on ne voit pas l'amélioration du bien-être des populations, encore moins de l'emploi. Pourquoi le FMI continue à fournir des financements de court terme à un pays comme le Togo, qui a passé ses dépenses militaires, qui a vu ses dépenses militaires passer de 9% à 13% des dépenses du gouvernement entre 2005 et 2010, l'époque exactement où le président Faure Gnassingbé était au pouvoir. Alors que le Bénin voisin, on est passé de 8,1% à 6,8%, le Bénin était en décroissance sur ses dépenses militaires. Est-ce que c'est pour frapper les gens dans la rue? Est-ce que c'est pour utiliser contre les gens qui se battent pour la démocratie? Pourquoi, sous couvert d'une langue de bois, appelée langage diplomatique, le FMI, finalement, désinforme le peuple togolais? Et le ministre des Finances togolais, il croit avoir décroché le paradis dès que le FMI nous donne un peu et nous prête un peu d'argent, un peu de crédit, alors qu'il faut payer ça avec des taux d'intérêt relativement importants. En réalité, le Togo n'arrive pas à réduire sa dette. Et j'ai vérifié, et ce depuis plus de 10 ans. Donc le pays est en fait mal géré, et le FMI continue à ne rien voir, et continue à donner des prêts. Alors la question est de savoir, est-ce que le FMI gagne dans cette opération? Ma réponse est oui. Si elle gagne, alors pourquoi elle doit attendre que nous soyons dans une situation tellement difficile pour pouvoir à ce moment-là imposer ces conditionnalités? Et vous savez ce que c'est que les conditionnalités? Puisqu'on ne peut pas payer, alors on donne quoi? On donne nos capacités productives, on donne tout ce qui permet de créer de l'argent, on transfère par la privatisation un certain nombre de choses. Voilà. Mais pourquoi ce pays doit donner, je parle du Togo, doit donner d'abord de l'argent au FMI, alors qu'on peut utiliser cet argent d'abord pour la santé, l'éducation, les droits humains, le financement des petites et moyennes entreprises, par exemple.
Justement, Dr Yves Kouyamaïso, dans votre réquisitoire contre le Fonds monétaire international, et on peut se poser la question pourquoi avoir justement décidé de cibler deux pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo et la Côte d'Ivoire?
Alors, moi je vous répondrai d'abord pourquoi pas. En fait, il se trouve que Alassane Ouattara, qui était mis à la tête de la Côte d'Ivoire, est le président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique et développante des États d'Afrique de l'Ouest. Et que Faure Gnassingbé, qui était mis à la tête du Togo, est le président en exercice de l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africain. Alors, les deux, on a voulu voir s'ils sont des modèles pour la sous-région. Mais non, on s'aperçoit que leur gestion, en tout cas pour ce qui est de l'endettement, n'est pas bonne. Et il faut le dire. Et le FMI ne le dit pas tout haut. Ce n'est pas normal. Et c'est très important parce qu'on nous montre toujours la croissance économique. Non, il faut nous montrer qu'on n'a jamais été excédentaire sur notre balance du solde extérieur courant. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce que nous faisons, nos balances commerciales, nos échanges avec l'extérieur, on n'a pas amélioré la situation. Et si le FMI continue à nous donner toujours de l'argent, en fait, pour nous sauver, en tout cas sauver le gouvernement, mais ça veut dire qu'il soutient cette politique de mauvaise gouvernance. Ça veut dire qu'il veut que ça continue comme ça. Puisque dès lors que le FMI est payé, le reste n'intéresse pas le FMI. Voilà le fondement de cette discussion avec le FMI. Et il faudrait que le FMI s'explique pourquoi cette institution doit passer en priorité avant les intérêts de la population togolaise, ivoirienne, béninoise ou d'autres. Voilà le fond du dossier. D'ailleurs, le FMI engrange de substantiels bénéfices sur ses prêts de court terme. Et vous savez que ce qu'il y a derrière, on n'a jamais vu le FMI avoir des difficultés financières en tant que tel. Et quand ils en ont, ce n'est pas à cause de l'Afrique, c'est à cause d'autres pays. Et souvent à cause des politiques que ce même fonds monétaire a imposées à ces pays. On ne va pas citer le Mexique, on ne va pas citer l'Argentine et bien d'autres encore, ou même l'Égypte. Vous voyez ? Donc c'est très important que les gens puissent ouvrir les yeux sur le rôle de ces institutions dans lequel, quand vous regardez le conseil d'administration, ceux qui décident, ben écoutez, les Africains, s'ils représentent 2%, c'est le grand maximum. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution qui est là pour défendre les intérêts ni de l'Afrique, ni des Africains.
Docteur Yves Kouyamaïso, merci d'éclairer nos auditeurs sur votre réquisitoire sur contre le Fonds monétaire international. Alors, un de vos propos pourrait également interpeller la conscience d'un Africain de Côte d'Ivoire et du Togo, puisque vous avez mis l'accent sur ces deux pays et vous affirmez donc dans votre réquisitoire, je cite, et avec le FMI, et c'est la tchèque sans poisson en Côte d'Ivoire et la sauce sans viande au Togo. Alors, docteur Yves Kouyamaïso, que voulez-vous réinsinuer et à travers ces propos que vous avez tenu dans votre réquisitoire contre le Fonds monétaire international?
Non seulement je maintiens ce que je vous avais dit, mais je vais vous le préciser. Il y a une vingtaine d'années, vous mangez au Togo une sauce avec de la viande dedans. En Côte d'Ivoire, la tchéké était accompagnée d'un poisson. Au Sénégal, vous avez le tchèbdine avec du poisson, voire l'escargot dessus. Aujourd'hui, avec toutes ces difficultés et ces mesures appliquées, justement, beaucoup de familles pauvres, voire même la classe moyenne, ne peut plus se permettre tout cela. J'irai même plus loin que dans mon article. La tchéké dont je vous parle, la sauce dont je vous parle, qui est sans viande d'un côté et sans poisson de l'autre, savez-vous que vous l'achetez à crédit? Vous n'avez même pas l'argent pour l'acheter. La population togolaise, dans sa grande majorité, ne peut même pas s'acheter cette sauce. Encore moins la tchéké en Côte d'Ivoire. C'est ça le fond du problème. Alors, si c'est ça la situation, pourquoi un État doit prendre de l'argent et d'abord aller rembourser quelqu'un qui, lui, si vous ne le donnez pas à manger, le FMI ne mourra pas de faim? C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Il faut arrêter de parler de statistiques. Ce sont des individus comme vous et moi qui vont mourir, et qui meurent d'ailleurs, à cause de décisions. Savez-vous qu'au Togo, il y a à peu près... En 2005, l'ensemble de notre dette, nous devions rembourser par Togolais $14. $14 en 2005, quand Fornia Simbe est arrivé au pouvoir. Savez-vous qu'aujourd'hui, il a tellement endetté le pays qu'aujourd'hui, on doit rembourser $84 par personne. Mais vous savez très bien que personne ne va rembourser cet argent. Et comme on ne peut pas rembourser, mais on fait des crédits. Mais si on fait des crédits, mais vous oubliez la tchéquée. Vous oubliez la sauce, vous le prenez à crédit. Et si vous ne pouvez pas, mais je vais commencer par récupérer ce qui vous appartient, le sol, vos propriétés, et tout ce qui produit de l'argent.
Docteur Yves Kouyamaïso, merci pour vos développements très pertinents. Alors, vous parlez également dans votre réquisitoire contre le FMI de la crise financière créée par l'excès de d'irrégularisation des dirigeants occidentaux. Et alors, pouvez-vous expliquer, et quand même aux novices en économie qui nous suivent actuellement sur le www.canalk.ch, le terme de dérégularisation et ses conséquences quand même sur l'économie africaine?
Non, avec plaisir, mais d'abord, ne croyez pas qu'on est contre quelque chose. On n'est pas contre le FMI. On est contre une politique qu'appliquent ces institutions. Si demain matin, cette institution change, écoute ce que les économistes togolais ou ivoiriens ou sénégalais ou d'autres peuvent leur proposer comme solution et les mettre en œuvre, nous n'avons aucun problème avec les institutions en tant que telles. Donc, il ne faut pas nous opposer. On n'est pas là en tant que tel des opposants. On est là en train de regarder si ce qu'ils font est efficace. L'efficacité signifie que les populations mangent mieux et qu'ils trouvent de l'emploi parce que, en fait, il y a des erreurs de gouvernance qui sont faites par les États et les dirigeants de ces États et qu'il faut, en fait, sanctionner. Mais en donnant de l'argent, ils ne sanctionnent pas ces gens-là. Donc, ils les soutiennent. Alors, pour la dérégulation, c'est dans un cadre beaucoup plus global. C'est Donald Reagan, c'est Madame Thatcher, c'est toute cette équipe-là, qui sont plutôt de la droite, qui sont venus en disant non, il faut revenir à des anciennes théories économiques qui disent que le marché s'équilibre. Quand vous allez au grand marché de Lomé, ou celle de Sandaga à Sénégal, écoutez, au bout d'un moment, chacun achète et vend, le prix va s'équilibrer sur le marché. C'est peut-être vrai en théorie, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Parce que si moi j'ai plus d'argent que vous, si je suis plus puissant que vous, mais je peux imposer mon prix. Si je suis le seul à avoir un produit que les autres n'ont pas, je peux imposer un prix. Je peux aussi même vous imposer jusqu'à vous vendre ce qui n'est même pas bon, puisque les gens peuvent vendre des produits avariés sur un marché. Donc il vous faut de la régulation. C'est le rôle de l'État. L'État regarde ce qui est bien pour l'ensemble des populations, met des textes, des lois, des règles, on parle de régulation, en place. Et en principe, se sort de l'histoire et les acteurs, économiques, publics comme privés, s'organisent autour de cette règle qui doit être prévisible. Malheureusement, ça ne se passe souvent pas comme ça. Et en fait, cette dérégulation s'est développée à l'excès, au point qu'on a cru que même ceux qui investissent, non plus dans la production, mais dans les bourses, c'est-à-dire qu'en fait, certains vont financer à travers la bourse des entreprises, mais pour la plupart, c'est de la spéculation. Et donc, cette spéculation-là, on n'a jamais vu quand est-ce que ça enrichit les peuples. Ça enrichit quelques-uns, oui, et encore, ce n'est pas toujours sûr. Alors, pour résumer tout ça, c'est comme si vous mettez un caïman, un homme, un lion, un agneau près d'un marigot, et vous dites que chacun est libre d'aller boire de l'eau. C'est ça, la liberté. Il n'y a pas de règles. Vous croyez que le caïman et le lion vont avoir des difficultés? Mais l'homme, il risque de se faire manger soit par le lion, soit par le caïman.
Bien sûr, oui.
L'agneau, il risque de se faire avoir par le lion ou par le caïman, soit par l'homme aussi. Donc si on mettait une règle, justement, que chacun doit y aller à tour de rôle, et qu'il y avait un petit policier qui s'organisait et qui organisait tout ceci, vous avez vu, la fonction de la règle devient intéressante. Bien sûr, elle ne doit pas non plus empêcher l'initiative privée. Elle ne doit pas empêcher chacun d'avoir le choix de boire ou de ne pas boire. Mais vous voyez déjà le problème qui se pose. Et je peux vous dire que le caïman, en affaires, ça existe. Hein? Les lions qui ont le pouvoir surtout en Afrique, ça existe. Au fond, les lagneaux, c'est la population togolaise. C'est les populations de chacun des pays africains qui n'ont souvent pas le choix et qui subissent donc cette dérégulation et qui se retrouvent avec des prix qui augmentent énormément, de l'emploi qui n'est pas créé alors qu'il y a une croissance, etc. etc. D'ailleurs, venons-en aux États-Unis. Rappelez-vous que M. Obama vient d'être réélu. Mais vous savez ce que disait la droite, celle de Mitt Romney et même celle d'avant? C'est qu'il ne faut pas intervenir justement dans l'économie. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand General Motors, la grande structure qui fabrique des Cadillacs, qui fabrique des Chevrolet, qui fabrique des Buick, des Pontiacs, et j'en cite des meilleurs de voitures, quand ils ont mal géré, parce qu'ils ont une mauvaise gouvernance d'entreprise, et qu'ils étaient en train de couler avec un certain nombre d'Américains qui allaient se retrouver au chômage. Mais c'est M. Obama qui s'est levé en disant, écoutez, vos histoires de ne pas intervenir dans le marché, ça ne marche pas. Moi, je vais privatiser. Et en fait, comme c'est un État, il a donc nationalisé. Il a pris sur lui General Motors. Il a viré, pour, excusez-moi le terme, les dirigeants. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne ni en Europe ni en Afrique. On ne chasse pas les dirigeants qui sont des mauvais gestionnaires dans nos pays. Et il a mis d'autres plus efficaces. Et aujourd'hui, non seulement cette entreprise marche mieux maintenant, non seulement elle rembourse la dette que l'État lui avait payée, mais elle a retrouvé son activité normale de secteur privé. Justement. Donc vous voyez que quand la régulation est bien faite par des gens intelligents, ça fonctionne relativement.
Bien sûr. Et en revanche, on constate, docteur Yves Ekwemaiso, que les pays émergents comme la Chine et le Brésil, et qui ne sont pas sous le joug du Fonds monétaire international, et quand même ces pays réussissent et leur développement. Eh bien, si ces pays sont des modèles à suivre, et qu'est-ce qui empêche donc les pays africains à suivre l'exemple de ces pays-là? Et docteur Yves Ekwemaiso.
C'est une question très complexe. je ne suggérerais pas que ce sont des modèles à suivre, ce sont des exemples. Parce que chaque pays a sa culture et son histoire, et il aura son histoire et sa façon d'organiser son développement. Par contre, il faut vous rappeler que ces pays émergents, la Chine entre autres, le Brésil, l'Inde, et bien d'autres encore qu'on ne cite pas, sont ceux qui ont décidé de ne pas suivre les conseils du Fonds monétaire international. Ce sont ces pays qui ont décidé et même dit que ce que poursuit en in fine le Fonds monétaire international et va à l'encontre des intérêts des populations chinoises, pour parler de la Chine. Et la Chine a décidé non seulement de ne pas suivre, non seulement de ne pas écouter, mais de ne veut même pas les voir s'impliquer dans les affaires chinoises. Résultat des courses, mais voilà une Chine qui a réussi à sortir un certain nombre de millions de personnes de la pauvreté, qui a réussi à faire passer les gens paysans qui faisaient du riz dans le secteur industriel, qui a réussi à attirer les investissements étrangers directs, notamment d'Europe, et la Chine qui continue sa route, et tout le monde continue à dire que la Chine ne va pas. Ils sont quand même à 8 ou 9% de croissance, quand l'Europe est à 0, 1, 1,5, les États-Unis à 2, l'Afrique est à 5% de croissance. Donc attention, il faut revenir à nos valeurs ancestrales de solidarité, de justice, d'équité, de liberté aussi, pour qu'il puisse y avoir une capacité de nos États et de nos dirigeants à rendre des comptes aux populations. Ça, c'est l'exemple à suivre. Et effectivement, rendre des comptes aux populations n'est pas aussi évident au Brésil comme en Chine, d'ailleurs. Regardez comment les élections du nouveau président, Xi Jinping, qui a été élu. Donc, l'exemple à suivre, oui. Le modèle, non. Les modèles sont les modèles de chaque pays, de chaque région, de chaque entité, et ça vient des populations elles-mêmes. Il faut que le peuple africain, le peuple togolais et ivoirien puisse avoir le courage de se dire « mais qu'est-ce que je veux au fond ?» Et est-ce que si je choisis tel ou tel individu ou groupe d'individus pour me diriger, c'est pour obtenir quoi ? Pour accepter que ces messieurs se lèvent, distribuent l'argent comme de la corruption. Pas pour mettre des systèmes de rente où ils prennent de l'argent, notamment des mines, non transformées et les renvoient, non. La richesse se fait d'abord à partir de la transformation. Donc nous avons suffisamment de richesses que Dieu nous a données sur nos territoires, donc transformons-le. Dans la transformation, vous créez de l'emploi. Il suffit que ces emplois soient bien payés. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les chefs d'entreprise africains, là aussi, ont un gros problème de compréhension. Le capitalisme, s'il marche, c'est qu'il marche bien quand on distribue des salaires et des salaires décents. Et à ce moment-là, oui, ce salaire décent crée le pouvoir d'achat et ce pouvoir d'achat permet de racheter les produits qui ont été fabriqués et l'économie se met à tourner. L'argent doit circuler. Mais on ne peut pas avoir d'un côté des gens qui ont la rente, qui quand ils n'arrivent pas à avoir la rente, notamment minière, s'amusent à les taxer, à prendre de force ce que d'autres ont créé de richesse. Et donc c'est une injustice fondamentale. Ce n'est pas donc étonnant qu'on peut même arriver à ce que peut-être que certains de ces présidents en sont malades. Parce que la maladie existe pour ces présidents aussi, du fait même de ces mauvaises pratiques, que ce soit au Togo comme à Côte d'Ivoire.
Bien sûr. Alors vous parlez de la malgouvernance en Afrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans la plupart des pays africains. Alors effectivement, certains dirigeants africains panafricanistes et visionnaires, si on pourrait interpréter ce thème, ont essayé de frapper monnaie et ont été effectivement assassinés, ça c'est l'histoire nous l'a quand même confirmé. On peut citer entre autres le cas du premier président du Togo, Silvanus Olympio, et les gens d'autres aussi citent le nom tout récemment de l'ancien président Laurent Gbagbo et qui termine son parcours politique à la haie. Alors Yves Amaïso, est-il vraiment dangereux de frapper monnaie actuellement en Afrique?
La question, je crois, est mal posée. Le problème n'est pas de savoir si c'est dangereux ou pas. Le problème est de savoir si on veut une souveraineté. Je peux poser la question autrement. Est-ce que les Africains veulent rester éternellement des esclaves monétaires? Est-ce qu'ils veulent céder 50% pour ce qui est de la zone franc, 50% de leur richesse au trésor français, donc géré en fait par la France? Est-ce qu'ils veulent faire que ces 50% de leur richesse ne servent pas à financer leur petite et moyenne entreprise, leur santé, leur éducation, mais que ça serve d'abord à la France, en fait, qui décide de le réaffecter au fond, là où la France veut? Et comme la France a des difficultés assez importantes en ce moment, ne vous faites pas de soucis, le mot solidarité, dans la bouche même des dirigeants français actuels, signifie d'abord d'aller servir la France avant la zone franc. Il ne faut pas se faire des soucis là-dessus. Donc, la question n'est pas que c'est dangereux ou pas. Le problème est que on ne peut pas faire ça seul. C'est le problème de Sylvanus Olympio, qui avait été sur le point de sortir cette monnaie en décembre 62, et il est mort le 13 janvier 63, ou Laurent Gbagbo, qui tous deux ont cru qu'on pouvait faire les choses seuls. Non, il faut une convergence monétaire, il faut une grande région, la CEDEAO est bien disposée pour ça, il y a 15 pays, ça peut aller au-delà d'ailleurs, avec même l'Afrique centrale, et ensemble, oui. D'ailleurs, ce n'est pas dangereux quand on est ensemble, puisque ça devient une forme d'union fait la force. Mais bien sûr, si chacun, de son point de vue, dans son coin, ben, se décide de le faire, ils vont aller où ? Nulle part, c'est ce qui se passe. Donc, les résistances, que ce soit à l'extérieur, comme en Afrique, ne croyez pas que les autres présidents africains ne soient pas, de temps en temps, des traîtres par rapport à leurs propres frères ou leurs propres parents présidents. C'est aussi ça le problème. Parce que quand vous demandez aujourd'hui à la France, est-ce que les chefs d'État africains veulent sortir de la zone franc ? Mais vous serez étonné de la réponse. Ce n'est pas la France qui pose toujours le problème, c'est d'abord les chefs d'État africains. Et après, ils viennent vous faire d'autres discours quand ils rentrent au pays. Donc, il faut qu'on soit conscient de ces choses-là. Et quand vous regardez les résultats de la zone franc par rapport à d'autres zones africaines monétaires, vous vous apercevez, à part le problème de l'inflation qui est resté relativement bas, et je crois que c'est les statistiques qui le disent, parce que la vie est chère quand même à Lomé ou ailleurs, mais tout le reste n'a pas vraiment fonctionné. On a bloqué l'industrialisation, on a bloqué le développement des petites et moyennes entreprises, la création de richesses cumulatives ne se fait pas, et beaucoup plus grave, des interférences de l'État, interventions se font quasiment systématiquement, sans aucun moyen de traîner l'État devant un tribunal et de gagner. Voilà le résultat
Merci.
De cette façon de gérer depuis des années.
Merci.
Donc, la monnaie, au fond, va permettre Merci. De faire que ce que le travail que vous avez fait, la sueur que vous avez fait tomber,
Justement.
C'est bien le vôtre. Et la valeur de cette sueur, c'est ça que vous allez utiliser pour aller acheter un bien X ou un service Y, là où vous le voulez. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui décide, l'ensemble de nos matières premières sont fixées encore à Chicago. Et c'est fixé dans la monnaie dollar.
On
et vous voyez
comprend.
Le dollar qui est relativement faible aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci beaucoup, Dr. Yves Ekweamaizo, de nous avoir éclairé sur les problèmes qui minent l'économie africaine, notamment au Togo et en Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Vienne, en Autriche.
VRA, Voix de la Résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Bien, intérêt personnel déguisé, malentendu politique en Afrique, chanté par Jade Fosis, c'est son nouveau single dans cette émission préférée, Fenêtre sur l'Afrique.
Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent, et on essaie pourquoi, même si autour de tout s'écroule, ils prétendent aimer ce peuple.
Merci à toutes et à tous d'avoir été en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci à nos invités Alain Jules et Dr Yves Kouya Maïzo. Merci également à notre radio partenaire Légende FM à Lomé au Togo. Notre radio partenaire également, la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Sylvain Mauss vous a conduit, son équipe vous a conduit pendant 60 bonnes minutes qui viennent de finir. Excellente soirée à tous et rendez-vous samedi prochain, même heure, sur Radio Canal Corps dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.